Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Il est bon d'être dans la présence du Seigneur. L'apôtre Pierre disait à la Pentecôte, tu nous rempliras de joie par ta présence. Et c'est bien vrai. Sa présence nous donne une joie que le monde ne connaît pas, que le monde ne peut pas nous donner. C'est la joie même du Seigneur. Cette profonde satisfaction intérieure de ce que Jésus nous aime, de ce que nous sommes à lui pour l'éternité. Si nous sommes venus au pied de sa croix, que le Seigneur bénisse encore cette méditation et que notre amour pour le Seigneur et pour notre Père qui a donné son Fils, grandissent toujours plus. Et j'aimerais apporter quelques paroles sur un seul mot, mais dans ce mot, il y a des trésors inestimables. Nous ne pourrons bien sûr pas tout voir, nous sommes limités. Mais quelques pensées précieuses pour fortifier notre foi et notre relation avec le Seigneur. Ce mot, c'est Abba, Père. Il y a dans ce mot toute la révélation de Dieu, le Père pour nous. Jamais nous ne pourrons sonder tout ce qu'il y a dans ce mot, mais que le Seigneur nous aide par son Saint-Esprit à recevoir ce qu'il veut nous donner. Et lorsque nous aurons cette révélation du Père, toute crainte disparaîtra de notre vie. Car dans Romains chapitre 8, et verset 15, il est dit « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Nous n'avons pas un esprit de servitude pour être dans la crainte, mais nous avons reçu un esprit d'adoption qui nous fait crier « Abba, Père ». Et c'est dans la mesure où nous réalisons toujours plus cette révélation de Dieu comme notre Père, que toute crainte disparaîtra et que notre relation avec le Seigneur sera une relation bénie. Amen.
Amen.
Que le Seigneur nous ouvre les yeux. Et j'aimerais vous donner donc cette pensée sur ce mot de Père, Abba, Père, ou cette révélation importante dans notre relation avec Dieu le Père. Quand nous prononçons ce mot Abba, Père, à quoi est-ce que nous pensons? Nous pensons à plusieurs choses, mais la première chose à laquelle nous devons penser, c'est ceci, c'est que notre Père est digne d'adoration. Le premier mot, première révélation en rapport avec le Père, c'est l'adoration. Matthieu 6, verset 9, ce passage que nous connaissons tous bien, de la prière dominicale, quand il est dit: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. La pensée qui est en relation avec le Père ici, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit mis à part, car c'est un nom différent de tous les autres noms. Il y a quelque chose de glorieux. Et notre relation avec le Père sera une relation toujours plus bénie si nous prononçons avec foi ces paroles. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit adoré, que ton nom soit respecté, que ton nom soit élevé, car nul n'est comparable à notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Il remplit les cieux. Nul n'est semblable à lui. Et si nous voulons une bonne relation avec Dieu, le Père, nous devons nous approcher de lui avec respect et adoration. Amen. Il faut éviter de ne pas tomber dans une certaine familiarité avec Dieu le Père. Vous savez, quand on découvre une vérité, on pousse toujours un peu trop loin, on saute toujours d'un extrême à l'autre. Dieu est Dieu dans les cieux. Il est notre Père, nous avons une relation d'amour avec lui. Mais nous ne devons pas tomber dans la familiarité avec lui, car Dieu est Dieu. Et nous devons toujours nous approcher de lui avec respect et adoration. Amen.
Amen.
Combien nous devons veiller à cela? Car si nous ne veillons pas à cela, nous allons avoir une foi superficielle. Et malheureusement aujourd'hui, vous le savez comme moi, que la foi de beaucoup de chrétiens est très superficielle. On entend beaucoup de choses, mais il n'y a rien qui pénètre. On veut toujours être entretenu. On veut toujours qu'on nous entretienne. Mais il n'y a rien qui pénètre en profondeur. Combien nous devons dire, ô Seigneur, ô Père, je veux cette relation de respect et d'adoration avec toi. Car tu es aux cieux et moi je suis sur la terre. Tu es le Créateur et moi je suis ta créature. Et dans ce sens-là, il y aura toujours un fossé infranchissable entre Dieu et nous. Amen. Il y a des doctrines bizarres qui commencent à parcourir les milieux chrétiens. Où certains chrétiens ne sont plus satisfaits d'être des créatures de Dieu. Ils veulent maintenant être appelés des dieux eux-mêmes. L'influence de l'hindouisme pénètre dans nos propres églises. Ils disent, nous sommes des dieux avec un D minuscule, c'est vrai, mais nous sommes quand même des dieux. Quelle hérésie! Quel blasphème! Nous ne serons jamais des dieux. Nous sommes des enfants de Dieu. Rachetés par grâce. Mais Dieu nous élèvera jamais à son niveau à lui. Il est séparé de tout. C'est pourquoi nous devons veiller. Nous ne sommes pas des dieux, mais même avec un D minuscule, comme certains l'enseignent. N'est-ce pas ce qu'on enseigne dans l'hindouisme? Vous le savez comme moi. Il faut chercher en soi, soi-disant, ce Dieu qui existe en nous, n'est-ce pas vrai? Et par la méditation transcendantale et par toutes sortes de pratiques mystiques, on essaye de découvrir Dieu en nous. Par nature, Dieu n'est pas en nous. Nous sommes morts dans nos fautes et dans nos péchés. En nous, il n'y a rien de bon. Et c'est seulement lorsque Nous acceptons Jésus-Christ dans notre cœur comme notre sauveur personnel. Quand le Saint-Esprit vient faire sa demeure en nous, mais nous demeurons des hommes, des femmes, des créatures, des pécheurs sauvés par grâce.
Amen.
Rien d'autre.
Amen.
Père, respect et adoration, veillons à cela et nous aurons une meilleure relation avec notre Père si nous sommes dans cet esprit-là. Amen.
Amen.
Une deuxième pensée lorsque nous prononçons ce mot de Père. La deuxième pensée est la soumission. Dans Luc 22, 42, Jésus a dit, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Père, voyez-vous, sa relation avec le Père, avec son Père, était une relation de soumission au Père. Quoiqu'il était l'égal du Père, puisque Jésus est Dieu de toute éternité. Amen. Mais lorsqu'il est venu sur la terre, il s'est humilié volontairement. Il a pris la forme d'un serviteur. Et sa prière constante avec le Père était, non pas ma volonté, mais ta volonté. Lorsque vous prononcez ce mot de Père, voilà à quoi nous devons penser. Respect et adoration. Et ensuite, soumission. Oui, aussi, il y a des doctrines bizarres qui courent, je vous assure. Et une autre doctrine, c'est qu'on peut commander à Dieu. Il y en a qui exercent, qui ont une telle autorité spirituelle qu'ils peuvent même commander à Dieu. Je te commande de faire ceci et cela. Vous n'avez pas vu ça? Mais ça existe. Une hérésie. Comment pouvons-nous commander à Dieu? Ce n'est pas lui qui est à notre service, c'est nous qui sommes à son service.
Amen.
Dieu est Dieu.
Amen.
Et il ne s'abaissera jamais à notre niveau.
Alléluia.
Père, non pas ma volonté, mais ta volonté.
Amen.
Vous n'avez rien à commander à Dieu. La seule attitude convenable pour des créatures que nous sommes, rachetées par le sang de l'agneau, c'est de dire, non pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne.
Amen.
Et vous irez beaucoup plus loin avec le Seigneur. Vous avancerez beaucoup plus vite. Car le plus grand blocage dans notre vie spirituelle provient de ce que nous avons interverti la prière. Seigneur, non pas ta volonté, mais ma volonté. À entendre certains chrétiens, c'est comme cela qu'ils prient continuellement. Seigneur, non pas ta volonté, mais la mienne. Il faut que tu changes de prière. Il faut que tu changes de disque. Il faut que tu changes quelque chose de radical. Père, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que lorsque je m'approche de lui, je dois faire sa volonté, non la mienne. C'est un père. Il a des plans merveilleux.
Amen.
Alléluia. Ses plans sont extraordinaires.
Amen.
Si tu savais ce qu'il peut faire de ta vie, les plans merveilleux qu'il a pour toi. Mais ces plans ne se réaliseront que si tu es soumis. Ce n'est pas en lui commandant de faire ceci et cela que tu y arriveras. Beaucoup ont fait cela, mais ils sont dans des impasses maintenant. La volonté de l'homme, c'est du poison. La volonté de Dieu, c'est du miel.
Amen.
Qui nous donne force et vie. Quand tu prononces et quand nous prononçons ce mot de Père, faisons comme le Seigneur Jésus. Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Et sa volonté est bonne, agréable et
parfaite.
Vous pouvez tout déposer à ses pieds. Et à partir du moment où vous faites cette prière sérieusement, Dieu s'intéresse à vous. Il vous conduit dans des chemins peut-être que vous ne comprenez pas. C'est bien souvent comme cela que ça arrive. Mais c'est là qu'il faut tenir ferme. Le laisser faire. Il est Dieu. Il est Dieu. Laisse les rênes de ta vie entre ses mains. Pendant tout un temps dans ma vie spirituelle, après ma conversion, c'était merveilleux. J'avais vraiment tout donné au Seigneur et puis c'est extraordinaire. Après ma conversion, je suis allé à l'armée. Et là, l'armée, c'était à Grenoble, ensuite à Reagan, au Sahara. Mais là, l'armée, à ce moment-là, c'était 28 mois à peu près. Eh bien, c'était comme une retraite spirituelle pour moi. Incroyable. C'était une véritable bénédiction. Mais lorsque je suis rentré, je ne sais pas ce qui s'est passé, un peu le découragement. Et j'ai commencé à reprendre les rênes de ma vie. Et j'ai commencé un peu à faire les choses comme je voulais moi-même, comme je ressentais moi-même. Et c'est là que j'ai passé les mois les plus difficiles de ma vie chrétienne. Tout était bloqué. Pourtant, à l'armée, c'était vraiment une retraite spirituelle. Arrivé à la maison, c'était une prison spirituelle. C'était une prison. Je ne savais plus et je priais. Et je disais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais le Seigneur m'a dit, mais tu sais très bien ce qui se passe. Souvent on fait des prières, on essaye, vous savez, comme si le Seigneur ne savait rien. On lui explique les choses, mais à notre façon. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur m'a dit, mais tu sais très bien ce qui se passe. Tu as repris ta vie. Maintenant, si tu veux que je t'utilise, il faut que tu remettes tout entre mes mains, 100%. Et pour être plus sûr, tu peux faire 110% si tu veux. Un petit peu plus, ça ne fait pas de mal. On est sûr comme ça. On est sûr. Et c'est ce que j'ai fait dans les larmes. Parce que je voyais que je tournais en rond. Et j'ai dit, Seigneur, et je m'en souviens, c'était à Valence. Mes parents habitaient à Valence. C'était ici. Dans la maison où nous étions. Là, j'ai dit, Seigneur, maintenant c'est fini, ça suffit. Hein. Je ne peux pas tourner en rond comme ça. Ma vie, si ça continue comme ça, ce sera un fiasco complet. J'ai dit, Seigneur, maintenant, je ne suis pas grand-chose, je ne suis rien. Mais c'est plus ce que je veux, c'est ce que tu veux.
Amen. Alléluia.
Comme tu veux, où tu veux, quand tu veux. Amen. Maintenant, ce n'est plus moi qui commande. Je te remets les rênes de ma vie.
Amen.
Et c'était sincère.
Alléluia.
Attention, mes amis. On peut faire de grandes prières, de belles prières, et pas de réponse. Le ciel est toujours fermé. Le Seigneur n'est pas impressionné par la puissance de tes prières, par la longueur de tes prières, par la bonté de tes prières. Le Seigneur est impressionné par la sincérité de tes prières. Je dis, Seigneur, maintenant, c'est fini. Je veux changer et je veux faire ta volonté. Et c'est à partir de ce moment-là que les portes ont commencé à s'ouvrir.
Alléluia.
Et ça s'est ouvert, et ça s'est ouvert, et ça s'est ouvert.
Alléluia.
Et ça n'a plus fini. Alléluia. Une vérité importante que beaucoup de chrétiens n'ont pas encore vraiment mise en pratique. Tu es heureux. Combien de chrétiens sont heureux pendant un certain temps? Mais on n'arrive pas à les rendre toujours heureux. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Il faut toujours être là avec une pompe, il faut les gonfler. Tu vois quoi, ils se dégonflent. Je ne sais pas, il y a des trous quelque part, je ne sais pas où sont ces trous. Mais chaque fois que vous rencontrez ces chrétiens, il faut aller à la pompe. Ou certains chrétiens, il faut toujours avec un biberon, il faut toujours leur donner le biberon. Ou le biberon, ou la pompe. Ou ça se dégonfle toujours. Il n'y a rien qui tient. Pourquoi? Pourquoi cela? Et ça peut durer des années comme ça, c'est ça la tragédie. Père, quand nous prononçons ce mot de Père, cela veut dire, je me soumets à toi. C'est le Père.
Amen.
Il sait ce qu'il te faut. Il sait tout.
Alléluia.
Il a un plan parfait pour chacun d'entre nous ici.
Alléluia.
Chacun.
Alléluia.
Et je bénis le Seigneur d'avoir répondu de cette manière. parce que j'étais un jeune homme timide, très timide, sans une grande éducation. J'avais un petit certificat d'études, un petit CAP, encore tout juste. Tout juste. Alors je me disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire avec moi ? Quand je lisais des biographies d'hommes de Dieu, certains ça les encourage, mais moi ça me décourageait complètement. J'étais complètement découragé après avoir lu ce géant de la foi. Je me disais ça. Jamais, c'est pas pour toi. Jamais tu pourras faire quelque chose comme ça. Dieu ne peut pas t'utiliser. Oui, les autres, oui, mais toi, pas. Et ça me tourmentait. Ça me paralysait. Ça me remplissait de crainte, comme on l'a lu. C'était la crainte qui est là. Mais Dieu ne pense pas comme nous pensons. On pense que Dieu ne veut pas nous utiliser parce que vous ne parlez pas très bien, ou parce que vous n'avez pas une grande éducation, une grande intelligence, ou je ne sais pas, de beaucoup des choses que le monde considère comme des choses de valeur. Et que c'est à cause de cela, parce que vous n'avez pas ces choses, que Dieu ne peut pas vous utiliser. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Dieu peut utiliser n'importe qui, pourvu que cette personne dise sincèrement, maintenant ça suffit. Non plus ce que je veux, mais ce que tu veux. Sincèrement. Et sans reprendre. Sans reprendre sa prière. C'est la consécration totale. Car lorsqu'on se donne totalement, Dieu se donne totalement aussi. Un jour j'avais lu la définition du mot consécration par quelqu'un dans un livre. Et il a dit, voici ce qu'est la consécration. Vous prenez une feuille blanche, vous signez ici en bas. Vous signez là. Il n'y a rien du tout. Vous signez là. Et après vous dites au Seigneur, maintenant tu mets tout ce que tu veux ici. Tout ce que tu veux de moi, me demander, eh bien, pas de problème. C'est ça la consécration. Mais il y en a, ils bataillent tout le temps avec leurs feuilles. Ils ont dit, non, pas de fanatisme. Seigneur, moi je ne saigne pas comme ça, moi. Ça ne marche pas avec moi, Seigneur. Mais je vous dis, ils sont plus sages que Dieu. Commande à Dieu, ils sont plus sages que Dieu. Non. Comme si Dieu allait les conduire dans des voies bizarres, tordues, pour les détruire. Quelle ignorance! Du cœur du Père. Quelle ignorance! C'est faire sa propre volonté qui nous détruit. Mais faire sa volonté, c'est vivre. C'est s'épanouir. Alors nous nous disons, d'accord, non, moi je ne signe pas tout de suite. Et alors? Alors on pose toutes les conditions. Si ceci, si cela, d'accord. Alors voilà, après cela, on s'étonne de ce que ça ne marche pas. Mais qui es-tu pour commander à Dieu ? Il sait, il te connaît, c'est lui qui t'a formé dès le sein de ta mère. Il connaît tes capacités et tes faiblesses. Mais fais-lui confiance. Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. Si vous faites cette prière sincèrement, du fond de votre cœur, et que vous ne reprenez pas cette prière, parce qu'il ne faut pas faire cette prière-là, et puis après, 15 jours après, terminer, comme il y en a beaucoup qui font. On vient, on se consacre à des grandes concentrations, grandes conventions, on se consacre et tout ça, et 15 jours après, il n'y a plus personne, il n'y a plus rien du tout. On est consacré pour 2 jours, le temps de la convention, on est consacré, extraordinaire, merveilleux. Et on attend une autre convention pour se reconsacrer encore. Et puis il faut que les pasteurs prient, hein, et puis il faut que ça marche. Eux, ils sont amusés pendant tout ce temps-là. Et eux, maintenant, le pasteur, maintenant, c'est lui qui doit rattraper tout le travail perdu. Et là, Et puis si ça va pas très bien, vous devez jeûner pour moi aussi, pasteur. Le Seigneur m'a montré que vous devez jeûner aussi. Vous savez, il y en a qui ont de drôles de révélations. Ils disent même au pasteur, le Seigneur m'a montré que un peu de jeûne, ça ferait pas de mal. Pour moi, il y aura plus de puissance. Mais eux, ils n'ont jamais cette révélation de jeûner. Non, c'est pour les autres, surtout. Non, pas pour moi. Ils n'ont pas cette révélation. Ça rentre pas. Tout ça parce qu'ils ne veulent pas. Et c'est là la tragédie. Quand nous prononçons ce mot de Père, soyons conséquents avec notre Dieu. Tout le monde ne sera pas prédicateur. Tout le monde ne partira pas jusqu'aux extrémités du monde. Mais Dieu utilisera chacun d'entre nous et d'entre vous. Amen. Si un jour j'avais pensé que faire ce que je fais aujourd'hui, jamais je l'aurais cru. Jamais. Et je vois par là que ça vaut la peine d'obéir à Dieu.
Amen.
Et c'est toujours avec une grande faiblesse que je me tiens devant le Seigneur. Car je connais ma faiblesse et mes limitations. Sans le Seigneur, il n'y a rien qui va. Mais avec le Seigneur, tout est possible. Celui qui n'est rien du tout, Dieu peut l'utiliser. Dieu choisit les choses faibles du monde pour confondre les fortes, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Pourquoi sommes-nous dans cet état de faiblesse permanent? Afin que Dieu seul soit glorifié. Et c'est là un problème avec beaucoup de chrétiens. Dès que Dieu les bénit, ça leur monte à la tête. Vous ne pouvez plus leur parler. Ils sont tellement bénis que quand ils vous regardent d'en haut comme ça. Ils vous font sentir, moi, tu vois bien que je suis béni actuellement. Toi, pas grand-chose. D'ailleurs, si tu ne l'es pas, il y a certainement un péché quelque part. Hein. D'ailleurs, le Seigneur me l'a montré, ça. Je n'ai pas osé te le dire. Regardez-moi ça. Regardez ça. Vous savez, certains tombent à cause d'un péché, mais d'autres tombent à cause de la bénédiction qu'ils ne peuvent supporter, à cause de l'orgueil de leur cœur. Et c'est pour cela que beaucoup ne sont pas utilisés. Pendant un certain temps, le Seigneur ne les utilise tant qu'ils restent petits. Mais laissez-moi dire une chose, quand le cœur s'élève, Dieu abaissera cette personne. Dieu abaissera cette personne. C'est pourquoi cette prière doit être continuelle. Chaque jour, nous devons dire, non pas ma volonté, mais la tienne. Chaque jour, on se consacre un jour, mais chaque jour, on se reconsacre. Mais encore, il faut le penser réellement. Et la vie prendra une autre dimension. Vous savez, on pense qu'avec Dieu, les choses sont compliquées. Ce n'est pas compliqué. C'est une relation de père avec son enfant. Ce n'est pas compliqué. C'est nous qui sommes compliqués. C'est nous qui ne voulons pas vraiment faire ce que nous devons faire. Si nous voulons cette relation avec le Père, il faut qu'il y ait cette prière de soumission à sa volonté. Amen. Voyons une troisième pensée lorsque nous prononçons ce mot de Père. C'est assurance, l'assurance. L'assurance que nous sommes son enfant. Amen. Quand quelqu'un dit « papa, père », cette personne a l'assurance d'être son enfant. Alors le troisième mot, quand nous prononçons ce mot de père, cette troisième pensée importante, c'est que nous avons l'assurance d'être son enfant. L'assurance d'être sauvé. Amen. Quand vous prononcez « Père », Dieu nous donne cette assurance. 1 Jean 5, 13, vous le connaissez. « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Dans notre relation avec le Père, c'est une relation de certitude, de conviction, d'assurance. Amen.
Amen.
Quand des rois ou des empereurs parlaient à Paul, l'un disait « Tu vas bientôt me persuader d'être un chrétien. » Il y avait de la conviction dans les paroles de Paul. Il y avait une assurance. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. C'est une parole certaine. Je sais en qui j'ai cru, disait-il. N'est-ce pas merveilleux? C'est cela la vie chrétienne. Notre relation avec notre Père Céleste nous donne cette assurance-là que nous lui appartenons, que nos noms sont écrits dans le livre de vie. Alléluia.
Alléluia.
Et que bientôt nous le verrons. Nous contemplerons. Amen. As-tu l'assurance de ton salut? Dieu te la donne. Sa parole nous l'affirme, nous promet cela. Amen.
Amen.
Les gens religieux n'ont pas l'assurance de leur salut. Mais un chrétien qui a fait l'expérience de la repentance et de la conversion, de la régénération par le Saint-Esprit, peut dire, le Saint-Esprit rend témoignage en moi que je suis enfant de Dieu. Vous voyez, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous veut nous dire, tu es enfant de Dieu maintenant, parce que tu as cru à la parole, parce que nous avons été régénérés par la semence incorruptible de la parole. Cette parole de Dieu est esprit et vie. C'est elle qui régénère. Nous sommes nés de nouveau par la parole vivante et permanente de Dieu lorsque nous la croyons et nous la recevons. L'assurance pénètre en nous.
Amen.
Je sais en qui j'ai cru.
Amen.
C'est assurance. Dieu veut te donner cette assurance. C'est tragique quand on ne l'a pas. On doute continuellement. Père, la tranquille assurance de lui appartenir. Il est à moi et je suis à lui. Rien ne nous séparera de son amour. Manifesté en Jésus-Christ, plus rien ne nous séparera. Quatrième pensée, lorsque nous prononçons ce mot de Père, il y a une quatrième vérité qui se dégage, une quatrième révélation. Quand vous prononcez ce mot de Père, un mot vient à l'esprit, confiance. C'est un Père en qui on peut avoir confiance. Amen. Matthieu, chapitre 6, versets 32, 33, 34. Qu'est-ce qu'il est dit? Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent, parce qu'ils n'ont pas de père. Ils sont seuls. Ils n'ont pas de père. Les païens peuvent s'inquiéter.
Alléluia.
Mais pas le chrétien.
Amen.
Il a un père dans le ciel.
Amen.
Qui est souverain.
Amen.
Qui est le maître de tout.
Amen.
Et il nous dit... Ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Nous ne pouvons pas porter la peine du lendemain. La peine du lendemain nous écrase. Dès que vous pensez aux choses du lendemain, on est écrasé. Dieu nous donne la force de porter uniquement la peine du jour. Amen. La peine du jour. Demain, Dieu prendra soin du lendemain.
Amen.
Recherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice.
Amen.
Occupe-toi de lui, il s'occupera de toi.
Alléluia.
Encore une fois, quand certains chrétiens prient, c'est toujours bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Ils ne pensent qu'à eux. Et Dieu est là à leur service pour faire tous leurs caprices. Exaucer toutes leurs prières, et quand Dieu ne les exauce pas, ils boudent et ils envoient tout promener en disant qu'est-ce que c'est que ça que Dieu, qu'est-ce que c'est que ce Dieu-là. Ah oui, Dieu n'est pas un marchand ni un commerçant, il n'est pas à ton service. Dieu est Dieu.
Amen.
C'est toi qui es à son service. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Occupe-toi de lui et il s'occupera de toi. Ne sois pas obsédé par tes problèmes. Les païens, c'est comme ça qu'ils font, n'est-ce pas vrai? Qu'allons manger? Qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? Le païen, c'est cela. Il n'a pas de père dans les cieux. Mais le chrétien, lui, c'est différent. Confiance. Faisons confiance. Le psalmiste dit, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa descendance, mendiant son pain. Jamais. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Dieu n'abandonnera jamais les siens. Dieu n'a pas abandonné Élie dans le désert là-bas. Il lui a envoyé un corbeau. Même un corbeau. Il l'a envoyé. Il s'est occupé de son prophète. Il n'a jamais abandonné les siens. Si tu t'occupes de lui, il s'occupera de toi. Aie confiance. Ton Père sait que tu en as besoin. C'est le Père. C'est ton Père. Un jour, j'ai lu cette belle histoire d'un enfant qui était berger. Je crois que ça se passait en Écosse ou enfin en Angleterre, par là-bas. Et un jour, des savants ont découvert une sorte de fleur très rare, mais le long d'un précipice. Et pour aller cueillir cette fleur très rare, il fallait descendre le long du précipice. Il fallait descendre plusieurs mètres. Alors, il ne savait pas comment faire pour aller chercher cette fleur très rare, mais à un endroit très dangereux. Ils ont dit, comment on fait? Qu'est-ce qu'on va faire? Ils ne savaient pas comment. Personne ne voulait descendre là-bas, bien sûr. C'était dangereux. Et puis, ils ont trouvé un petit berger qui était là. Ils ont dit, viens là. On va te demander quelque chose. On va te donner de l'argent. On te donne 500 francs. Allez. Et on va te tenir par une corde. Et le long du précipice, on va te descendre. Et tu vois la fleur qui est là-bas en bas? Celle-là, elle est très rare. Tu vas là, il faut que tu la prennes, celle-là. Ils vont te dire, non, mais je veux pas, non, j'y vais pas. Non. Mais comment? On te donne l'argent. C'est pas assez, on te donne 1000. C'est pas des francs là-bas, c'est des 1000 pounds. Des livres sterling. On t'en donne 1000. Ah non. On t'en donne plus encore. Et ils ont cru que c'était une question d'argent. Il a dit, non. Non, je veux pas. Mais qu'est-ce que tu veux alors? Comment on va faire? On te donne tout cet argent et tu veux pas. Il dit non. Mais on te tiendra. Non. Vous pouvez me donner beaucoup d'argent, mais vous me tenir? Ouais, je sais pas qui vous êtes. Ouais. Moi, je vous connais pas. Si d'un seul coup tu dis, oh, j'ai, ça me brûle ici, la corde me brûle et tout, et que vous lâchez, qu'est-ce que je vais devenir moi? Avec votre argent? Je vais périr avec votre argent? Non. Le petit berger était intelligent. Alors comment on va faire? On te donne tout cet argent et tu veux pas? Finalement, il a dit, écoutez-moi bien. Bon, je veux bien descendre. Même sans argent, mais à une seule condition. C'est que ce soit mon père qui tienne la corde.
Alléluia.
Que ce soit mon père qui tienne la corde. Si c'est le papa qui tient la corde, même si ça doit saigner, il lâchera pas. Amen. Même si ça brûle, mon fils, ce n'est pas peur, c'est le papa. Et lui, tranquille, c'est le papa, je sais qu'il ne lâchera pas. Confiance, il ne te lâchera pas.
Alléluia.
Et tu peux être ballotté le long d'un précipice, ballotté à gauche, à droite.
Amen.
Mets ta confiance dans le Seigneur, dans ton Père Céleste. Il ne lâchera jamais la corde. Les autres pourront lâcher. Les autres, peut-être que beaucoup même, t'ont laissé tomber. Tu es déçu de plusieurs personnes. Dieu a permis cela afin que tu mettes ta confiance uniquement dans le Seigneur et dans le Père Céleste. Amen. Dieu permet des déceptions. Dieu permet tous ces problèmes. Parce que bien souvent, nos yeux sont sur l'homme, ou sur l'argent, ou sur un tas de choses. Et c'est là que nous faisons les plus tristes expériences. Dieu permet cela. Il permet même qu'on se casse le nez. Pour qu'on apprenne la leçon. Et qu'après on dise, Seigneur, bon maintenant je veux bien aller le long du précipice. Je sens le vide qui est là. Le vertige, moi j'ai le vertige un petit peu. Alors, je ne sais pas si je serais descendu dans ce. Mais on nous dit que quand on a le vertige, il ne faut jamais regarder en bas, il faut toujours regarder
en haut.
Et si nous avons des vertiges, c'est parce que nous regardons trop en bas. Et pas assez en haut. Votre Père sait que vous en avez besoin. Confiance. Confiance. Il n'a jamais abandonné quelqu'un. Mais il faut que tu t'abandonnes entièrement à lui. Amen. Abandonne-toi. L'enfant s'est abandonné totalement. Allez. Alléluia. Ouais, d'accord, allez, je descends. Papa, on y va. Quelle belle image de la confiance en son Père. À combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Autrement dit, donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui le lui demandent? À combien plus forte raison si un Père céleste ne lâchera pas son Fils? Même s'il doit souffrir, à combien plus forte raison notre Père céleste ne lâchera pas? Amen. Il tiendra la corde. Même si la corde brûle les mains, il ne lâchera pas. Fais confiance. Père, cela veut dire je te fais confiance. Tu dois faire ta part, bien sûr. Ça ne veut pas dire que tout va nous tomber du ciel. Nous devons faire notre part. Mais nous devons surtout faire confiance à Dieu. Nous occuper de lui, de son royaume aussi. Et il s'occupera de nous. Surtout dans ces temps difficiles, le Seigneur n'abandonnera jamais les siens. Dans le désert, vous vous rendez compte? 40 ans dans le désert. Il n'y avait pas de supermarché là-bas. Pas de supermarché dans le désert. Et pourtant, pendant 40 ans, ils ont vécu. Et qui sont morts? Les incrédules. C'est les incrédules qui sont morts. Non pas parce qu'ils n'avaient pas à manger, mais parce qu'ils ont douté de la fidélité de Dieu. Amen. Dans le désert, 40 ans, Dieu les a aidés. Tu es dans un désert. Dieu ne t'abandonnera pas. Recherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses te seront données par-dessus. Quelle belle vérité. Quelle belle parole. Fais confiance. Fais confiance. Il ne t'abandonnera point. Il ne te délaissera point. Cinquième pensée merveilleuse lorsque nous dit prononçons ce mot de Père. Ce mot de Père nous rappelle une chose. Que le Seigneur corrige celui qu'il aime. Le Père corrige. Quel est le Père qui ne corrige pas son enfant? Alors lorsque nous prononçons le mot de Père, le mot qui nous vient à l'esprit, c'est éducation. Dieu fait notre éducation. Notre Père fait notre éducation. Le vrai Père fait l'éducation de son enfant. Amen. Amen. C'est pourquoi il dit oui quand ça va, et il dit non aussi quand ça ne va pas. Aujourd'hui, on ne veut plus entendre de non, c'est pas vrai? Il faut toujours dire oui, toujours dire oui, toujours dire oui. Et on en fait des voyous. Les enfants sont des voyous. Parce que les parents disent toujours oui. Il faut dire oui quand il faut dire oui. Il faut savoir dire non quand il faut dire non. Et là, éducation, Hébreux 12, 6, 7, le Seigneur corrige celui qu'il aime. Qu'il aime. Beaucoup d'entre nous, on a compris ce verset de travers. Le Seigneur corrige celui qu'il n'aime pas. Bien souvent, nous-mêmes, quand on est corrigé par le Seigneur, avez-vous remarqué la première correction, la première pensée que nous avons? Seigneur, c'est parce que tu ne m'aimes pas que tu me corriges comme ça. Avez-vous remarqué? C'est cette pensée. Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Pour que tu agisses comme ça, à mon égard, tu ne m'aimes pas? C'est pour ça que tu fais comme ça? Alors c'est exactement le contraire. Le Seigneur corrige celui qu'il aime. La correction, l'éducation est un signe que ton Père céleste s'occupe bien de toi. Et tu dois te laisser corriger. Tu dois te laisser reprendre. Tu ne dois pas t'entêter. Sinon, nous tapons la tête contre les murs. Nous sommes dans des impasses. Nous ne savons plus où nous en sommes. Nous prenons des voies interdites. Éducation. Ton Père Céleste fait ton éducation. Il sait ce qu'il te faut. Il te corrigera, il permettra certaines épreuves, mais Romains 8, 28 réglera tous les problèmes. Amen. Romains 8, 28, vous le savez ce verset quand même. Romains 8, 28. Mais nous savons du reste, Nous savons, est-ce que tu le sais? Nous savons, et la certitude, nous savons du reste que toute chose concourt au bien. Dans le texte grec, c'est concourt ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Ensemble. Si nous voyons seulement quelques circonstances ou événements séparés, nous disons ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Quand nous voyons les événements séparément, on se dit ça n'a pas de sens. Est-ce que Dieu peut faire quelque chose là-dedans? C'est pas possible. C'est pas possible ça. C'est insensé. Mais la Bible dit que toutes choses concourent ensemble. Toi, tu vois une chose, mais Dieu voit toutes choses. Toi, tu as une vue limitée de la chose, mais Dieu a la vue générale, globale. Amen. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous savons du reste. Est-ce que tu le sais? Il y en a qui ne le savent encore pas. Ils ne le savent encore pas. Ils ont 30 ans de conversion, ils ne le savent encore pas. Je sais pas, peut-être. Comment? Alors, cette relation avec le Père, naturellement, ça ne va pas. Si un enfant dit à son père, ici, bas, hein, si votre enfant vous dit, papa, j'ai des doutes sur toi, tu sais. Des fois, je ne sais pas si tu m'aimes, tout ça. Non, les enfants, vous voyez, eux, quand vous les corrigez tout de suite, la première réaction, il ne m'aime pas, c'est parce que vous ne m'aimez pas, c'est pour ça. Oui. Voilà. Et rien de tel pour vous faire mal, n'est-ce pas? Alors que vous, c'est par amour que vous l'avez fait. C'est parce que vous aimez l'enfant que vous le faites. Et non pas parce que vous le détestez. Et quand votre enfant vous dit cela, quelle souffrance en vous. Combien nous pouvons faire souffrir notre Père Céleste? Combien nous pouvons lui faire de la peine? Et comme cela, notre relation avec lui est perturbée. Père, éducation. Oui, Seigneur, façonne-moi à ton image. Façonne-moi. Il nous a prédestinés pour être semblables à l'image de son Fils. Sixième, on en est où? C'est ça, six? Six, oui, il faut qu'on arrive à sept, hein, j'ai bientôt fini. Six. Sixième pensée, Père. Quand un enfant prononce cela, un enfant de Dieu, le mot qui vient, c'est responsabilité. Un enfant a des responsabilités à l'égard de son père. Amen. J'entends pas un enfant tout petit. Un enfant, une grande personne, un fils, a des responsabilités. Et nous, par rapport à notre Père Céleste, quand nous disons « Père », cela veut dire que je suis assez grand maintenant pour prendre des responsabilités. Amen. Nous grandissons, Dieu veut qu'on grandisse, notre Père Céleste veut qu'on grandisse, et il change sa façon d'agir à notre égard. Avez-vous remarqué au début, quand on se convertit, la moindre prière qu'on formule, pouf, c'est l'exaucement. Vous avez remarqué? Même vous ne vous priez même pas, vous êtes exaucé. Vous avez l'impression que votre Père Céleste vous chouchoute, là, voyez? Pouf, ça vient de tous les coins. Des frères, des sœurs qui sont là autour de vous, qui vous aiment, qui vous bénissent, oh là là, et qui ils vous prennent pour des anges. Ça ne dure pas longtemps, malheureusement. Ça ne dure pas longtemps. Mais c'est formidable au début. À peine qu'ils ouvrent la bouche, pouf, ça y est, c'est formidable. Et au bout d'un certain temps, ces mêmes chrétiens, ils prient la même chose, il n'y a plus rien qui se passe. Et ils ne comprennent pas. Quand tu étais bébé, petit, le Seigneur te donnait ce que tu demandais. Mais maintenant que tu grandis, tu ne peux plus demander comme avant. Tu dois changer ta façon de demander et de prier. Cette façon égoïste de demander doit disparaître. Pour demander d'une manière qui le glorifie. Quand tu es petit, c'est non pas ta volonté, mais ma volonté. C'est pas vrai? Avez-vous remarqué les bébés, comment ils font? Quand ils crient, jusqu'à ce que vous fassiez leur volonté. Qu'est-ce que le bébé veut dire? C'est non pas ta volonté, ce sera ma volonté. Et comme c'est le bébé au début, de temps en temps, on donne un petit coup là. On ne peut pas aller bien loin. Mais il y a beaucoup de chrétiens, après 20 ans de conversion, qui continuent à pleurer comme ça. Ils pensent que le Seigneur, leur Père Céleste, va intervenir comme ça, à cause de leurs larmes. De crocodile. Ah oui, c'est ça. Et Dieu est en train de faire notre éducation. Il dit non, c'est plus comme ça que ça marche, mon enfant, maintenant. Tes prières égoïstes, maintenant, doivent être changées, doivent changer. Maintenant, tu as une responsabilité. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Pendant longtemps, ce verset, et je pense que plusieurs d'entre nous, on est un peu troublés par ce verset. Ça nous écrase. Être parfait comme notre Père Céleste est parfait, c'est impossible. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, le mot parfait ne veut pas dire le mot parfait tel qu'on le pense, nous. Le mot parfait dans le texte grec ici veut dire « Soyez adultes comme votre Père Céleste est adulte. Soyez mûrs. Ne soyez plus des enfants égoïstes qui prient uniquement pour satisfaire leurs propres besoins. Maintenant, vous grandissez. Vous prenez des responsabilités. Vous devez vous oublier vous-même pour servir les autres. Voilà le but de l'éducation et le but de nos responsabilités. Mais beaucoup de chrétiens n'ont pas encore compris ça. Dès qu'ils ouvrent la bouche, c'est toujours pour pleurnicher et demander ce qu'ils veulent. Et Dieu ne répond pas. Et vous savez, tu as intérêt à t'arrêter toi de pleurer. Parce que ce n'est pas ton Père Céleste qui va changer. Il t'aime trop pour changer, lui. Il t'aime trop. Quand tu auras arrêté, quand tu auras versé toutes tes larmes, après, il va te dire, bon, maintenant, ce serait peut-être mieux de dire maintenant, je veux faire ta volonté, Père, et non la mienne. Et le plus vite nous le ferons, moins nous verserons des larmes. Amen. Amen. Responsabilité. Père, quand vous prononcez Père, c'est cela, responsable. Et vous êtes responsable maintenant. Vous ne devez plus vivre pour vous-même, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour vous. Vous ne devez plus vivre pour recevoir, mais vivre pour donner. Amen. Recevoir, c'est humain. Donner, c'est divin.
Amen.
C'est cela. Et beaucoup n'ont pas compris cela. Quand on est enfant, on vit pour recevoir. Mais quand on devient adulte, c'est fini. On vit pour donner. Recevoir, c'est humain. Donner, c'est divin. Bon, je termine maintenant. Septième vérité glorieuse. Père, c'est la ressemblance. Tel Père, tel Fils. Le but du Seigneur, c'est de nous transformer à son image, n'est-ce pas vrai?
Amen.
Romains 8, 29, il est dit que nous sommes prédestinés pour être semblables à l'image de son Fils. Le but du Seigneur dans notre vie, de notre Père céleste, c'est de nous transformer à son image. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Il nous faut abandonner tout ce qui était de l'homme, de l'enfant, pour être transformé à l'image du Seigneur. Voilà, quand tu prononces ce mot « Père », cela veut dire « Je veux te ressembler ». Je veux ressembler à ton Fils qui est venu faire ta volonté ici-bas. Et en ressemblant au Fils, on ressemble au Père. Amen. Parce que Jésus a dit « Celui qui m'a vu, a vu le Père ». Il nous faut abandonner tout ce qui était de l'homme, de l'enfant, pour être transformé à l'image du Seigneur. Voilà, quand tu prononces ce mot « Père », cela veut dire « Je veux te ressembler ». Je veux ressembler à ton Fils qui est venu faire ta volonté ici-bas. Et en ressemblant au Fils, on ressemble au Père. Amen. Parce que Jésus a dit « Celui qui m'a vu, a vu le Père ». Il nous faut abandonner tout ce qui était de l'homme, de l'enfant, pour être transformé à l'image du Seigneur.
Amen.
Voilà, quand tu prononces ce mot « Père », cela veut dire « Je veux te ressembler ». Je veux ressembler à ton Fils qui est venu faire ta volonté ici-bas. Et en ressemblant au Fils, on ressemble au Père. Amen. Parce que Jésus a dit « Celui qui m'a vu, a vu le Père ». Il nous faut abandonner tout ce qui était de l'homme, de l'enfant, pour être transformé à l'image du Seigneur.
Amen.
Voilà, quand tu prononces ce mot « Père », cela veut dire « Je veux te ressembler ». Je veux ressembler à ton Fils qui est venu faire ta volonté ici-bas. Et en ressemblant au Fils, on ressemble au Père. Amen. Parce que Jésus a dit « Celui qui m'a vu, a vu le Père ». Il nous faut abandonner tout ce qui était de l'homme, de l'enfant, pour être transformé à l'image du Seigneur.
Amen.
Voilà, quand tu prononces ce mot « Père », cela veut dire « Je veux te ressembler ». Je veux ressembler à ton Fils qui est venu faire ta volonté ici-bas. Et en ressemblant au Fils, on ressemble au Père. Amen. Parce que Jésus a dit « Celui qui m'a vu, a vu le Père ».